Ernest Renan, La vie de Jésus, chapitre 2, Enfance et jeunesse de Jésus, ses premières impressions. Jésus naquit à Nazareth, petite ville de Galilée qui n'eut avant lui aucune célébrité. Toute sa ville fut désignée du nom de Nazaréen, et ce n'est que par un détour assez embarrassé qu'on réussit dans sa légende à le faire naître à Bethléem. Nous verrons plus tard le motif de cette supposition et comment elle eût été la conséquence obligée du rôle messianique prêté à Jésus. On ignore la date précise de sa naissance. Elle eut lieu sous le règne d'Auguste vers l'an 750 de Rome, probablement quelques années avant l'an premier de l'ère que tous les peuples civilisés font dater du jour où il naquit. Le nom de Jésus qui lui fut donné est une altération de Josué. C'était un nom fort commun, mais naturellement on y chercha plus tard des mystères et une allusion à son rôle de sauveur. Peut-être lui-même, comme tous les mystiques, s'exaltait-il à ce propos. Il est ainsi plus d'une grande vocation dans l'histoire dont un nom donné sans arrière-pensée à un enfant a été l'occasion. Les natures ardentes ne se résignent jamais à avoir un hasard dans ce qui les concerne. Tout pour elles a été réglé par Dieu et elles voient un signe de la volonté supérieure dans les circonstances les plus insignifiantes. La population de Galilée était fort mêlée, comme le nom même du pays l'indiquait. Cette province comptait parmi ses habitants, au temps de Jésus, beaucoup de non-juifs, des Phéniciens, des Syriens, des Arabes et même Grecs. Les conversions au judaïsme n'étaient point rares dans ces sortes de pays mixtes. Il est donc impossible de soulever ici aucune question de race et de rechercher quel sang coulait dans les veines de celui qui a le plus contribué à effacer dans l'humanité les distinctions de sang. Il sortit des rangs du peuple. Son père Joseph et sa mère Marie étaient des gens de médiocre condition, des artisans vivant de leur travail, dans cet état si commun en Orient, qui n'est ni l'aisance ni la misère. L'extrême simplicité de la vie dans de telles contrées, en écartant le besoin de confortable, rend le privilège du riche presque inutile et fait de tout le monde des pauvres volontaires. D'un autre côté, le manque total de goût pour les arts et pour ce qui contribue à l'élégance de la vie matérielle donne à la maison de celui qui ne manque de rien un aspect de dénuement. À part quelque chose de sordide et de repoussant que l'islamisme porte partout avec lui, la ville de Nazareth, au temps de Jésus, ne différait peut-être pas beaucoup de ce qu'elle est aujourd'hui. Les rues où il joua enfant, nous les voyons dans ces sentiers pierreux ou ces petits carrefours qui séparent les cases. La maison de Joseph ressembla beaucoup sans doute à ces pauvres boutiques éclairées par la porte, servant à la fois d'établi, de cuisine, de chambre à coucher, ayant pour ameublement une natte, quelques coussins à terre, un ou deux vases d'argile et un coffret peint. La famille, qu'elle provint d'un ou de plusieurs mariages, était assez nombreuse. Jésus avait des frères et des sœurs dont il semble avoir été l'aîné. Tous sont restés obscurs, car il paraît que les quatre personnages qui sont donnés comme ses frères, et parmi lesquels un au moins, Jacques, est arrivé à une grande importance dans les premières années du développement du christianisme, étaient ses cousins germains. Marie, en effet, avait une sœur nommée aussi Marie, qui épousa un certain Alphée ou Cléophas. Ces deux noms paraissent désigner une même personne, et fut mère de plusieurs fils, qui jouèrent un rôle considérable parmi les premiers disciples de Jésus. Ses cousins germains, qui adhérèrent au jeune maître, pendant que ses vrais frères lui faisaient de l'opposition, prirent le titre de frère du Seigneur. Les vrais frères de Jésus n'eurent d'importance, ainsi que leur mère, qu'après sa mort. Même alors, ils ne paraissent pas avoir égalé en considération leur cousin, dont la conversion avait été plus spontanée et dont le caractère paraît avoir eu plus d'originalité. Leur nom était inconnu à tel point que, quand l'évangéliste met dans la bouche des gens de Nazareth l'énumération des frères selon la nature, ce sont les noms des fils de Cléophas qui se présentent à lui tout d'abord. Ses sœurs se marièrent à Nazareth et il y passa les années de sa première jeunesse. Nazareth était une petite ville située dans un pli de terrain largement ouvert au sommet du groupe de montagnes qui ferme au nord la plaine d'Esdrelon. La population est maintenant de 3 à 4 000 âmes et elle peut n'avoir pas beaucoup varié. Le froid y est vif en hiver et le climat fort salubre. La ville, comme à cette époque toutes les bourgades juives, était un amas de cases bâties sans style et devait présenter cet aspect sec et pauvre qu'offrent les villages dans les pays sémitiques. Les maisons, à ce qu'il semble, n'y feraient pas beaucoup de ces cubes de pierre sans élégance extérieure ni intérieure qui couvrent aujourd'hui les parties les plus riches du Liban et qui, mêlées aux vignes et aux figuiers, ne laissent pas d'être fort agréables. Les environs d'ailleurs sont charmants et nul endroit du monde ne fut si bien fait pour les rêves de l'absolu bonheur. Même de nos jours, Nazareth est encore un délicieux séjour, le seul endroit peut-être de la Palestine où l'âme se sente un peu soulagée du fardeau qui l'oppresse au milieu de cette désolation sans égale. La population est aimable et souriante. Les jardins sont frais et verts. Antonin, un martyr à la fin du VIe siècle, fait un tableau enchanteur de la fertilité des environs qu'il compare au paradis. Quelques vallées du côté de l'ouest justifient pleinement sa description. La fontaine où se concentrait autrefois la vie et la gaieté de la petite ville est détruite. Ces canaux crevassés ne donnent plus qu'une eau trouble. Mais la beauté des femmes qui s'y rassemblent le soir, cette beauté qui déjà a été remarquée au VIe siècle et où l'on voyait un don de la Vierge Marie, s'est conservée d'une manière frappante. C'est le type syrien dans toute sa grâce pleine de langueur. Nul doute que Marie n'ait été là presque tous les jours et les priant l'urne sur l'épaule dans la file de ses compatriotes restés obscurs. Antonia Martyr remarque que les femmes juives, ailleurs dédaigneuses pour les chrétiens, sont ici pleines d'affabilité. Aujourd'hui encore, les haines religieuses sont à Nazareth moins vives qu'ailleurs. L'horizon de la ville est étroit, mais si l'on monte quelque peu et que l'on atteigne le plateau fouetté d'une brise perpétuelle qui domine les plus hautes maisons, la perspective est splendide. À l'ouest se déploient les belles lignes du Carmel, terminées par une pointe abrupte qui semble se plonger dans la mer. Puis se déroule le double sommet qui domine Megiddo, les montagnes du pays de Sichem avec leur lieu saint de l'âge patriarcal, les monts Gelboé, le petit groupe pittoresque auquel se rattachent ces souvenirs gracieux ou terribles de Soulem et d'Andorre, le Tabor avec sa belle forme arrondie que l'Antiquité comparait à un saint. Par une dépression entre la montagne de Soulem et le Tabor, s'entrevoit la vallée du Jourdain et les hautes plaines de la Pérée qui forment du côté de l'est une ligne continue. Au nord, les montagnes de Safed, en s'inclinant vers la mer, dissimulent Saint-Jean d'Acre, mais laissent se dessiner aux yeux le golfe de Caïfa. Tel fut l'horizon de Jésus. Ce cercle enchanté, berceau du royaume de Dieu, lui représenta le monde durant des années. Sa vie même sortit peu des limites familières de son enfance, car au-delà du côté du nord, l'on entrevoit presque sur les flancs de l'Hermon Césarée de Philippe, la pointe la plus avancée dans le monde des gentils, et du côté du sud, on pressent derrière ces montagnes déjà moins riantes de la Samarie, la triste Judée desséchée comme par un vent brûlant d'abstraction et de mort. Si jamais le monde restait chrétien, mais arrivé à une notion meilleure de ce qui constitue le respect des origines, veut remplacer par d'authentiques lieux saints les sanctuaires apocryphes et mesquins où s'attachait la piété des âges grossiers, c'est sur cette hauteur de Nazareth qu'il bâtira son temple. Là, au point d'apparition du christianisme et au centre d'action de son fondateur, devrait s'élever la grande église où tous les chrétiens pourraient prier. Là aussi, sur cette terre où dorment le charpentier Joseph et des milliers de Nazaréens oubliés, qui n'ont pas franchi l'horizon de leur vallée, le philosophe serait mieux placé qu'en aucun lieu du monde pour contempler le cours des choses humaines, se consoler de leur contingence, se rassurer sur le but divin que le monde poursuit à travers d'innombrables défaillances, et nonobstant l'universelle vanité.